Mir dem neuem Scherus ist er rausgekommen. Ich hab sich verliebt in ein Jüngel, ein Scheinem, und ich kann zu ihm nicht kommen. Spiel schon mir dem neuem Scherus ist er rausgekommen. Ich hab sich verliebt in ein Jüngel, ein Scheinem, und ich kann zu ihm nicht kommen. Wo zu ihm gegangen, wohnt er sehr weit. Wollt ihm doch ein Kusch gegeben, schäm ihr sich verleid. Nicht so verleid, wie für Gott allein. Wollt mit ihm verbracht die Zeit, dass keiner soll nicht sein.
L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier.
Spiel je mir dem neuem Scherus ist er rausgekommen. Ich hab sich verliebt in ein Jüngel, ein Scheinem, und ich kann zu ihm nicht kommen.
Né sous l'étoile du 1er mai. Revenons à ma famille. À Gortch, mon grand-père, qui ne savait pas encore le lituanien, travaillait d'abord avec mon grand-père maternel. Il est probable que les prisonniers de guerre aient trouvé du soutien auprès de quelques familles juives du village. Sa deuxième langue était le polonais, mais entre eux, les juifs utilisaient naturellement et presque exclusivement le yiddish, la mamelotion, la langue de la majorité des juifs d'Europe de l'Est. Le lituanien, langue balte et non slave, s'écrit avec des caractères latins. La plupart des juifs étaient bilingues et beaucoup de lituaniens qui travaillaient avec les juifs s'exprimaient aussi en yiddish. Ma famille était demeurée à Gortch jusqu'à mes 5 ans. Et puis nous avons déménagé dans les environs, à une quinzaine de kilomètres de là, à Andreyave, petit village tranquille, où une vingtaine de chalets se pressaient autour d'une église, elle aussi bâtie en bois. Le village se résumait à une seule et unique ruelle perdue entre les arbres et les fleurs. À quelque distance des maisons se cachait un lac où nous allions nous baigner. C'est là que vivaient 6 foyers juifs dont 2 nous étaient proches. L'une de ces familles, dont la maison était suffisamment grande pour nous abriter tous, nous cédait 2 chambres. Mon frère aîné était resté étudier à Gorch, car Andreïave ne possédait pas d'école. D'autres enfants du village fréquentaient l'école de Tels, ou allaient même jusqu'à Memel. Mon père, d'abord employé par mon grand-père Aaron, travaillait à présent comme contremaître dans la forêt. Aux yeux des Lituaniens, c'était un étranger. Paysan, le reste de l'année, les ouvriers s'engageaient comme saisonniers avant l'hiver pour parvenir à joindre les deux bouts. Ils mettaient leurs propres moyens de transport et leurs instruments de travail au service de la compagnie de bois qui les employait. Leur travail consistait à abattre les arbres, à dégager les troncs de leurs branches et puis à les débiter en rondins qu'on empilait pour les faire sécher. On ne pouvait en effet les transporter en automne car les roues des charrettes, alourdies, s'enfonçaient dans la terre humide. C'est pourquoi, paradoxalement, on les faisait partir en hiver, lorsque la terre était gelée. Les ouvriers transportaient alors le bois en caravane jusqu'à Klaipeda, sur la mer Baltique, à une vingtaine de kilomètres de là. Les Juifs avaient à Andreïave un petit oratoire où ils se réunissaient pour prier. C'est à peine s'ils formaient un minyan, l'indispensable assemblée de 10 hommes juifs qui permet la prière en commun. J'aimais beaucoup une des fillettes. C'était une petite rouquine, et j'avais moi aussi le visage couvert de taches de rousseur. Un jour d'inspiration, j'avais conçu l'idée de jouer au docteur avec ma petite camarade. Afin de mettre mon projet à exécution, nous nous étions enfermés dans les toilettes. Mais le Reb, qui nous dénicha assez vite, voyait les choses d'un œil tout à fait différent. C'est avec une certaine précipitation qu'il nous fit évacuer les lieux. L'incident signa la fin de ma première idylle. Nous avons vécu à Andreïave un certain temps. Une nuit de gel, au beau milieu de l'hiver, l'étable qui abritait alors le bétail prit feu. Nos amis, qui vendaient quelques denrées alimentaires, faisaient également un peu d'élevage et d'agriculture maraîchère. À moitié nus, nous voilà tous dehors, emmitouflés dans nos couvertures. Dans la nuit claire, le ciel embrasé rougeoyait, et la chance voulut qu'on sauvât la maison. Ce souvenir d'incendie qui s'est gravé dans ma mémoire à jamais, je le vois encore flamboyer comme s'il se déroulait à l'instant même devant mes yeux. Nous n'eûmes pas d'autre choix que de déménager à Telschai, qui faisait figure pour nous de ville importante. Tout est relatif. Arrivant d'un minuscule village, quasiment un hameau, isolé de surcroît, tout nous paraissait grand. En réalité, que ce fût par sa taille ou par sa population, Tels n'était que pas si étendue, mais elle possédait un objet de fierté, une yeshiva de renommée mondiale, où des étudiants venaient étudier d'aussi loin que les États-Unis. Une communauté rabbinique, le Kollel, un lycée, Yavne, réservé aux jeunes filles, et une école normale d'enseignants pour les garçons, ainsi que des écoles publiques de garçons et de filles, non mixtes, complétaient ces institutions éducatives et faisaient de Tels un centre juif à l'échelle régionale. Hormis les 3 synagogues principales, il existait différents oratoires, dont celui des tailleurs. Les chrétiens avaient 2 lieux de culte, dont la belle église russe orthodoxe, dressée au milieu d'un parc d'où l'on pouvait admirer l'ensemble de la ville, embrassant en contrebas son lac tout en longueur. Sur le pourtour de celui-ci, on louait des canots pour les promenades sur l'eau. Les Lituaniens qui habitaient le long de la berge pratiquaient la pêche, dont ils vivaient parfois. C'était eux qui approvisionnaient le marché en poissons et qu'ils vendaient aux Juifs pour le Shabbat et les jours de fête. D'autres habitaient à la périphérie de la ville, où ils cultivaient de grands jardins, tandis que les Juifs se trouvaient plutôt dans son centre, à proximité de leurs écoles et de leurs synagogues, dans le lacis des petites ruelles qui partaient de la rue principale, une longue rue de 3 kilomètres où se répartissaient les principaux commerces. Si Tels n'était pas très grande, c'était, comme on le voit, une agglomération agréable à vivre. L'été, on s'y baignait, les hommes, bien entendu, d'un côté du lac, et les femmes de l'autre, les plages étant distantes d'1 kilomètre. Le costume de bain n'était pas de rigueur pour la bonne raison que cette pièce vestimentaire n'était pas encore vraiment répandue à Tels. Mais nous, les garçons, nous savions tous très bien nager. Et aucun d'entre nous n'hésitait à franchir l'espace interdit et à jeter un coup d'œil du côté des femmes et des jeunes filles, histoire de s'assurer qu'elles se tenaient convenablement. Enfant déjà, nous étions capables de traverser à la nage le lac dans sa longueur et de revenir. Et nous connaissions au beau milieu un îlot qui n'affleurait pas, mais où nous avions pied, et sur lequel nous pouvions faire une halte pour reprendre notre souffle. Nous le repérions de loin, en nageant dans l'axe du clocher de l'église. L'hiver, le lac était gelé et recouvert d'une épaisse couche de glace, et le vent balayait la neige aussitôt qu'elle se posait, formant des congères ici et là. Il était alors possible de patiner à loisir sur ce miroir glacé, chacun sur son patin. Celui qui avait les moyens d'en posséder deux était un heureux privilégié. Lorsque le vent soufflait, nous ouvrions nos manteaux, le laissant s'engouffrer et nous emporter comme de grands oiseaux. Poussés par la force des bourrasques, nous nous retrouvions en quelques instants à l'autre bout du lac, 3,5 km plus loin. Il fallait cependant être très prudent et veiller au grain, car les pêcheurs avaient la déplorable habitude de percer des trous dans la glace. C'est ainsi que par une belle journée, je plongeais dans un de ces gouffres sombres et glacés dont on me sortit roide comme une planche et littéralement gelé. La place du marché, très belle, offrait un spectacle pittoresque. Ses vastes proportions, l'architecture et la disposition de ses maisons, ses couleurs, tout donnait l'impression d'un tableau composé par un artiste. S'étirant d'abord sur une largeur dépassant les 100 mètres du côté de l'église orthodoxe russe, plantée au milieu du parc, elle descendait en se rétrécissant sur 300 mètres et ne dépassait pas 30 mètres à son extrémité inférieure. Ses proportions étaient donc monumentales. Elle était bordée de boutiques juives sur ses deux côtés et en son milieu trônait un bâtiment ancien de briques qui avait beaucoup d'allure, surmonté d'un toit mansardé, recouvert de tuiles rouges, où s'ouvraient des lucarnes. Chacune de ces lucarnes surplombait la porte d'une boucherie. On avait beau faire le tour du bâtiment de briques, il n'y avait là que des boucheries cachères et leurs bouchers portant de longues barbes. Plus bas se trouvait un puits profond qui alimentait en eau une partie de la ville. Il fallait en tourner longuement la lourde manivelle jusqu'à ce que le seau finisse par remonter. La plupart des habitants n'avaient pas l'eau courante chez eux. En hiver, l'eau du seau débordait et se répandait sur la chaussée qui formait alors une véritable patinoire. Il était alors indispensable d'y répandre du sable ou des cendres afin d'éviter les accidents. Derrière la ville, les Juifs avaient un abattoir. Je n'ai jamais entendu parler dans Tels d'un quelconque beddin, ni jamais remarqué d'autorisation tamponnée ici et là, notamment sur la viande comme on le voit à Paris. À Tels, les bouchers étaient tous très pieux. Il n'y avait d'ailleurs pas de boucherie non cachère. Les rues n'étaient pas goudronnées, mais pavées de pierre et de taille inégale et de forme arrondie. Deux fois par semaine, les paysans conduisaient au marché leurs charrettes tirées par des chevaux. La majorité d'entre eux ne possédaient qu'un seul cheval. Et en hiver, ils approvisionnaient la ville en traîneaux. Quand ils arrivaient sur le lieu du marché, un placeur leur attribuait un emplacement en réservant des allées pour le passage. Et les chevaux libérés de leur attelage étaient sagement remisés derrière les chariots. Les étals regorgeaient de toutes les marchandises imaginables, produits de la terre et fruits de saison. À l'époque, on n'utilisait pas de traitement chimique. Les fruits et les légumes diffusaient des arômes agréables et bien différenciés. Ils n'étaient pas aseptisés comme ils le sont aujourd'hui. On trouvait aussi des poules et d'autres volailles, ainsi que des poissons pour le Shabbat et les fêtes, que l'on achetait, cela va sans dire, encore vivants. Chaque maîtresse de maison se rendait chez le Shoïret avec sa volaille. Celui-ci accomplissait les gestes prescrits par la loi. Une pièce de son habitation était réservée à l'abattage rituel. De retour chez elle, les femmes plumaient les volailles et mettaient de côté les plumes et le duvet qui servaient à confectionner des coussins et des édredons pour l'hiver. Elles ouvraient alors la volaille Et si d'aventure elle constatait quelques défauts susceptibles de rendre l'animal impropre à la consommation, elle courait vite chez le rabbin afin de s'assurer qu'il était bien cachère.
Dort wo großen Sehnen nasser steht a grenne Zehvertracht gehen Mädler ziehen Wasser wie die Ämmer alle Nacht gehen Mädler ziehen Wasser wie die Ämmer alle Nacht. Und der Sohn wie weiße Bären wachsen täglich in großen Sod und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot. Von die Steppes Windler blosen und a Feierruhl der brennt, gehen Mädler auf die Großen mit die Ämmer in die Hand. Gehen Mädler auf die Großen mit die Ämmer in die Hand. Wertle wohne blass und blasser, geht's beugt men in der Nacht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a grene Zehvertracht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a grene Zehvertracht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a grene Zehvertracht.
Nun lassen wir sich umkehren zu meiner Familie. Mein Vater hat da in Gorst gearbeitet mit meinen Seiden, weil er hat noch nie gekannt reden Litwisch. Ich muss da bemerken, wenn nicht zu kommen zurück zu der Frage. Litwisch ist eine baltische Sprache und schreibt sich mit lateinischen Buchwiss. Mehrsten Teil Jiden haben gerät Litwisch. Viele Twiner, welche haben gearbeitet bei den Jiden, haben gerät Jidisch. Nur Jiden zwischen sich haben gerät Jiddisch. Wir sind geblieben in Gorst, bis ich bin alt geworden, 5 Jahre. Und wir sind nach rübergefahren und leben dabei ungefähr 15 Kilometer von Dannen, in Andrejave. Ein kleines, stilles Städtchen von 20 Häusern und auch eine Kirche. Alles ist gewesen gebaut von Holz. Die ganze Städtel ist gewesen ein Gessel. Bloß helle Bäume und Blumen. Und hinter dem Städtel eine kleine Osere. Wir pflegen sich kein Boden. Da haben gelebt 6 jüdische Familien, von welchen 2 sind gewesen unsere Freunde. Sie haben uns abgetreten, 2 Zimmer von seiner Stube, welche ist gewesen genug für 2 Familien. Mein zweiter Bruder ist da geboren geworden und er hat geheißen Leibe. Mein älterer Bruder ist geblieben in Gorst lernen, weil da ist nicht gewesen, wo zum Lernen. Die anderen Kinder von Städtl fliegen vorne lernen oder in Tels oder in Memel. Mein Vater hat da gearbeitet im Wald, war ein Angestellter. Das ist bestanden, in schneiden die Bäume Sommer, sie zusammenlegen, zu trinken, die Holz, weil Sommer mit Wegener fliegt man nicht kennen, nach Reis führen. Weil die Räder fliegen einsinken in der Erde, welche fliegt sein Feucht. Darüber fliegt man das Reis für den Winter mit Schlittenes. Die Jeden haben da gehabt als Stiebel und man fliegt sich zusammenkommen, davnen, kam gewinn am Mingen. Noch Mittag fliegt der Rebbe, welcher ist nicht gewinn kein Rauf, hat mit uns gelernt Alofbeis. Wir sind da nicht gewinn viel Kinder, erzähnlich, englisch mit Mädchen. Ein Mädchen ist mir sehr gefallen. Sie ist gewinn erreicht und gehe. Und ich habe euch gehört viel Sommersprenkler auf dem Pony. Eins einem Tag hat sich mir verwählt mit dir spielen in Doktorin. Nun haben wir sich vermacht in Toilette und dem Reben ist das nicht gefallen geworden. Und er hat uns geheißen, von dort erreicht was schneller. Und mit dem hat sich geendigt meine erste Liebe. Gewöhnlich, ich lache das. Wir sind da geblieben leben eine gewisse Zeit. Eine Nacht, Winter, in der Frost, hat genommen brennen die Stall, wo man halt die Behemes. Weil unsere Freund haben gehabt ein Geschäft von Essenwerk und er sich vernommen mit Landwirtschaft. Wir sind alle reis auf dem Gas, halb nackt, nur mit der Decke zugedeckt. Auf dem Kopf. Die Nacht ist gewesen eine lichtige. Der ganze Himmel ist gewesen rot. Sie ist gelungen, abzuraten, wenn die Stube. Das hat sich mir angekriegt in meinen Sekunden. Punkt wie heint, wo das passiert. Von dann an sind wir rübergefahren in Tels, Telschei. Für uns ist das ein gewesen, eine große Stadt, weil alles ist relativ. Als man kommt von einer kleinen Stadt in eine größere Stadt, hat man den Eindruck, dass das ist groß. Tels ist nicht gewesen, sehr groß. In Vernehm wie in Inhalt. Mit ihr Jesive, was ist gewinn bewusst in der ganzen Welt, und der Kröll, Farabonim, gewinn eine Javne Gymnasie vermeidlich und ein Lehrerseminar verringlich und eine Volksschule verringlich und meidlich, besonder. Und drei Schulen zum Davnen und noch eine, was man hat gerufen, die Schneiderse Schule. Auch die Litwiner haben gehabt sehr religiöse Anstalten und auch die Russen haben gehabt eine schöne Zirkwe in einem Park, von wann man hat gekannt sehen die ganze Stadt und unten die Osere, wo die Stadt hat ihr herumgenommen, die ganze Länge von Stadt. Und unten pflegt man sich kennen Dinge in Stiefel zu machen Spazier auf dem Wasser. Beim Break von Osere haben gelebt die Litwiner. Und auch die wichtigste Gas und euch weiter in die kleinere haben gelebt Jeden. Die Litwiner pflegen Chappenfisch und bringen auf den Markt zum Verkäufen auf Sabbes und Jontef. Also wie ihr seht, ist das gewesen als Tod, nicht kein Greis, aber angenehm zum Leben. Sommer pflegt man sich Boden, Männer besonder und Frauen besonder und gewöhnlich hat man nicht gedarft, Badekostümen. Die Plazas seien gewinnt eine von den anderen 1 Kilometer die weit. Aber Milchhevre haben alle gekannt gut schwimmen und fliegen erwächst mit dem Warf von Neug auf die Weiber und Mädlach, aber sie führen sich auf gut. Wir haben schon als Kinder gekannt, darüber schwimmen die Osere in der Lenk und kommen zurück. In mitten Osere ist gewinnt eine Insel unter dem Wasser und man hat sich gekannt, wegstellen und sich abruhen. Winter ist die Osere gewinn verfroren und der Eis ist gewinn sehr grob. Die Schnee hat sich nicht gehalten auf dem Eis. Der Wind hat das weggeblasen. Man hat sich gekannt glitzen. Einer auf ein Glitzer und wer es hat gehabt, zwei, ist gewiss gewinn gut. Und als es schlägt seiner Wind, öffnet man den Mantel und es glitzt sich vom Wind allein. Und er stub dir weg in gezählte Minuten in jener halbe Osere. Nur man hat gemusst sehr vorsichtig und geben Achtung, weil die Fischer haben gerade gewöhnt, es zu haken Lecher. In einem Tag bin ich Tage herangefallen in ein Loch. Und als man lebt sich heraus, wird man wie ein Brett, verfroren vom Kälte. Der Platz vom Mark ist sehr malerisch. Der Bild bekommt sich, wie es gemalt von einem Maler. Er hebt sich an, wo der Markt ist, der breitste, neben der russischen Zirkwe, das heißt neben Park, wo die Breitkeit muss sein über 100 Meter und endigt sich ungefähr 300 Meter niedriger, mit einer Breitkeit von 30 Meter. Das heißt, also er ist länger wie breiter. Von beiden Seiten seien gewöhnt viel jüdische Geschäften und in mitten ist gestanden sehr schöne Gebäude von Ziegel mit reiter Kachel auf dem Dach und darum seinen Gewinn nur jüdische Jatkes. Jeder Katzef hat gehabt sein Geschäftel. Ein bisschen niedriger ist gewinn ein Brunnen, zu nehmen Wasser. Man pflegt Musen brennen, bis man pflegt ein röfterende Memmer. Winter pflegt sein große Probleme, weil es pflegt sich rübergießen auf der Erde und formieren Eis. Man pflegt Musen alle Tag und werfen Sand auf der Erde. Hinter uns dort ist gewinn ein Sechthaus, speziell verrieden. In Tels habe ich nicht gehört von Bedin und nicht gesehen die Zettel mit der Leibniz, also wie man sieht das in Paris. Die Kassoven sind alle gewinn fromme Iden. Die Stadt ist nicht gewinn asphaltiert, nur blockiert mit Steiner, aber nicht kein vierkantige, nur runde und jeder einer andere Größe. Zweimal in Woche fliegen die Pörem kommen in Mark mit Wegener und Pferd oder Winter mit Schlittens und bringen Hob und Guts, Grinsen und Fruchten, was hat gehabt dem Tamm und dem Röch, wie man sagt, das Reich nicht hoch. Lebendige Gens, endlich Hinner, lebendige Fies auf Sabbes. Jeder Ballabost fliegen in Rez. Nachdem wieder Sechert hat gemacht seine Arbeit und kommen die Kinsu fliegen die Hinner oder Gens und von die Puch machen Bettgewand. Und neben mir fliegt die Finne nach Fehler bei einem Huhn, muss man gleich laufen beim Rauf, fragen, Eize, zu meinem Tor das Essen.
Komm schon zu mir, geh, ich warte auf dich schon lang. Komm schon, geh, rüber, das soll nicht hören, dein Gang. Führ ich dich ins Stiebele von meinem Mann, du allein. Großen Kalle will mir sein und zu der Chuppe gehen. Ich hab sich verliebt in eine Jünger, der Scheine.